midi 30, 14h.
La France bouge avec Elisabeth Assayag sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Pendant 60 minutes, nous allons vous montrer que la France a des idées, qu'elle sait les développer et que vous, vous êtes les acteurs de ce changement. Gros plan aujourd'hui sur les entreprises de sécurité privée. Il n'est plus question de vigile, mais du métier d'agent de sécurité. Reconnaître un visage parmi une foule ou surveiller un site grâce à un drone autonome. Vous allez voir que là aussi, dans ce domaine, les Français innovent. Elle est née au début du 19e siècle, elle fabrique des moulins à poivre, Peugeot Saveur, c'est l'entreprise qui va bien merci. Vous voulez prêter votre appartement mais vous ne savez pas où laisser les clés, ne les mettez pas sous le paillasson, mais pensez plutôt à une consigne connectée, c'est la solution, elle s'appelle Monkey Loki. C'est ça, la France qui bouge, et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, bienvenue à tous. Tous les jours, entre 13h et 14h, nous mettons en avant les initiatives des Françaises et des Français qui ont choisi de faire bouger les choses dans notre beau pays. Aujourd'hui, gros plan sur la sécurité, sécuriser des personnes et des endroits. Un secteur qui est en pleine croissance. Les outils technologiques se mettent au service de la sécurité et vous allez découvrir des innovations françaises qui font bouger le métier de la surveillance. Marlène, on attend toutes les questions.
Et oui, si vous souhaitez intervenir en direct à l'antenne, ne vous privez pas. 39-21, vous l'avez dit Elisabeth, 50 centimes la minute. Et puis on peut laisser aussi un petit commentaire sur Twitter, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1.
Et pour les accueillir dans le studio Lagardère, Sébastien Guyot, vous restez avec nous
cette semaine pendant l'émission, pour nous éclairer
pendant toute l'émission. Notre coach du jour, c'est Nicolas Chabanne. Bonjour Nicolas.
Bonjour Elisabeth.
Vous êtes le fondateur de C'est qui le patron ? Merci d'être avec nous. Caméra thermique, drone, robot, la technologie renforce l'efficacité de la surveillance, notamment de sites sensibles. Bonjour Clément Christimanos.
Bonjour Clément Christimanos, tu vas bien ?
Bonjour, très bien, merci d'être avec nous, vous êtes en direct sur Europe 1. Vous êtes le cofondateur et le président de Uavia. Vous avez créé Uavia en 2015 en partant du constat que les drones devaient servir nous, les êtres humains.
Absolument. En réalité, quand on regardait avant 2015, ce qui se passait, c'était plutôt l'inverse. À savoir, à chaque drone, finalement, il y avait un pilote qui était au sol et qui devait le contrôler. Et nous, on est vraiment parti de ce constat et on a souhaité développer une plateforme d'intelligence artificielle qui permet vraiment aux industriels de connecter leurs drones et finalement de pouvoir les opérer totalement en distance, de manière très simple, et de mettre cet outil-là entre toutes les mains.
Alors, ce sont des drones connectés, comment ça se passe ? C'est connecté à Internet ?
Alors, en réalité, ils peuvent être connectés à Internet ou à des réseaux privés, en fait, hein, tout simplement. On parle beaucoup, par exemple, de 4G et de l'usage de technologies de transmission mobile pour les drones. C'est vraiment ce qui a permis, finalement, en 2015, de piloter les premiers drones depuis l'étranger. On a, par exemple, piloté un drone depuis San Francisco, alors que le drone se situe à Paris. Alors qu'auparavant,
Depuis Paris, vous, depuis votre bureau, grâce à la 4G ? C'est ça ?
L'inverse, tout à fait. Le drone était à Paris et puis nous, en 2015, on a sorti le premier drone connecté et on l'a piloté depuis San Francisco.
D'accord.
Ce qui était en fait une première mondiale. Au départ, c'était quelque chose que seuls les militaires pouvaient faire avec des transmissions satellites qui coûtaient très très cher. Et aujourd'hui, on rend ce type d'usage, l'usage à distance, abordable par des industriels.
Donc comment ça marche ? Parce que normalement, il faut des êtres humains 24 heures sur 24. Vous mettez en place votre technologie comme un outil complémentaire pour pouvoir, par exemple, surveiller un site sensible.
Absolument. Il faut s'imaginer qu'en fait, un travailleur dans un site industriel, par exemple, ou à distance, peut s'identifier sur ce qui ressemble à un site internet, finalement, avec un identifiant, un mot de passe, se connecter et là prendre le contrôle d'une machine qui peut se situer à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde et faire son travail, finalement, à distance, soit de vérifier des choses.
Mais quoi, par exemple ? Qu'est-ce qu'il peut voir ?
Alors, ça peut être tout et n'importe quoi. En fait, en réalité, on travaille avec plusieurs types de données, de la vidéo, mais aussi, vous en parliez, des caméras thermiques qui peuvent permettre de mesurer des températures. Il y a plusieurs scénarios d'usage. Un des premiers scénarios, c'est d'utiliser le drone un peu comme un agent de sécurité qui ferait une ronde, où là, le drone va permettre de détecter des choses et de remonter l'information pour qu'un agent puisse intervenir si c'est nécessaire. Ça, c'est le premier scénario. Le second scénario, c'est plutôt un usage de réactivité et d'urgence, où là, on va avoir à 4h du matin une alarme qui va sonner sur un site industriel, et on ne sait pas ce qui se passe, et on a besoin de confirmer. Et à l'heure actuelle, c'est fait par des humains, et nous, on propose en fait, d'envoyer le drone en éclaireur et regarder ce qui se passe à distance.
Donc un drone qui va aussi sécuriser l'être humain, parce qu'il peut,
absolument,
pour qu'il ne s'aventure pas dans un endroit qui peut être très, très,
très dangereux.
Très dangereux. Sébastien, vous aviez une question.
Personne ne peut prendre la main en termes de sécurité, autre que vous, sur le drone ?
Alors bien sûr, on a beaucoup travaillé la partie sécurité informatique, hein, ce qui est quand même au départ notre domaine d'expertise. Et on a tout à fait, en fait, chiffrer de bout en bout. Donc on utilise des techniques de chiffrement, un peu comme dans le secteur bancaire par exemple. Et effectivement, il n'y a que les personnes qui sont autorisées qui peuvent prendre le contrôle de la machine.
Nicolas Chaban, notre coach.
J'ai découvert moi le monde des drones par Helper, qui est une société qui permet avec un drone d'amener une bouée à quelqu'un qui sera en difficulté. C'est tellement simple, tellement évident. Mais je me posais une question, comment on est passé de ces premiers drones où le petit voisin faisait voler ça dans le jardin, où un journaliste s'est lancé là, d'une zone de vacances, d'une sarlette un été, il y avait très peu d'usages en dehors de cela, à ces usages tellement performants, on l'a encore vu là, avec Notre-Dame et ces drones qui ont survolé la zone d'incendie. C'est quoi ? C'est une technologie qui a permis tout ça ? Qu'est-ce qui a fait le virage ?
Alors, le virage, il s'est opéré, à mon sens, suivant plusieurs facteurs. D'une part, c'est vrai, vous avez raison, le drone, c'était analogue avec une radio commandée, une voiture radio commandée au départ, en fait. Quand on a créé l'entreprise en 2014-2015, il y avait des drones sous tous les sapins de Noël et c'était vraiment des jouets. Ce qui a permis, en réalité, cette petite révolution et ce déploiement dans le monde de l'industrie et dans des usages un peu plus complexes et utiles, finalement, c'est à la fois un virage technologique, puisqu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui se sont mis à travailler sur ces sujets, notamment nous, dès le départ. On avait perçu la valeur énorme que pouvaient représenter ces outils-là dans le monde industriel, et également la réglementation qui a permis d'accompagner le développement de la filière et de ses usages sur beaucoup de thématiques. On entend parler de drones dans le domaine de la construction, on entend parler de drones dans le domaine de la sécurité, bien entendu, et on entend parler de drones pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps avec Notre-Dame et l'usage qui en a été fait par les secours.
Mais ce qu'il y a d'assez unique et particulier dans les drones que vous avez mis en place, c'est que ce sont des drones autonomes. C'est-à-dire que vous pouvez lui attribuer une mission et il va le faire de A à Z.
Tout à fait. En réalité, on a doté ces drones d'une intelligence artificielle qui se situe directement à bord du drone et qui va permettre finalement de donner ses intentions au drone. Et c'est lui qui va décider la manière dont il va réaliser la mission et la manière dont il va passer à droite, à gauche, en haut, en bas. Et l'humain n'a plus à se soucier finalement de la manière dont on va opérer la solution. L'image que je prends souvent, c'est que voilà, quand on veut planter un clou, on prend un marteau et on regarde le clou, et on regarde certainement pas le marteau, et c'est un peu la vision qu'on porte, nous, avec le drone dans le monde industriel. L'outil doit disparaître et l'utilisateur doit vraiment être capable de regarder le site, la donnée qu'il cherche à trouver, mais pas être focalisé sur l'usage de la machine.
Justement, Sébastien, des drones autonomes, il y en a de plus en plus.
Il y en a de plus en plus. Alors, notre coach évoquait le drone Helper, en effet, qui peut larguer donc une bouée autogonflable équipée d'une radio, donc qui va permettre donc la communication entre la victime et le sauveteur, et ça permet donc d'accélérer l'intervention des secours en mer. Et puis il y a aussi, par exemple, le Skytech qui a été testé par Engie. C'est un drone de surveillance et de sécurisation des sites industriels. On en parlait, et donc il décolle tout seul sur simple alerte et il assiste ensuite l'équipe de surveillance qui est au sol.
Vous avez démarré en 2015, vous êtes trois cofondateurs. Aujourd'hui, vous êtes, je crois, plus de 20 salariés.
Absolument.
Ça va être quoi la suite ?
Alors, naturellement, la société, on a vocation à la développer avec toujours plus de clients industriels. Vous parliez d'Engie, effectivement, il y a beaucoup de grands groupes qui travaillent en France sur le sujet.
Toutes sortes d'activités, des ports, des aéroports
Absolument.
Alors, des sites nucléaires.
Des sites nucléaires, on rencontre beaucoup d'industriels dans le secteur de l'industrie lourde. Total, par exemple, a annoncé il y a maintenant quelques temps travailler avec nous, même sur l'antenne d'Europe 1, puisqu'on était présent au CES de Las Vegas. Avec le groupe Total. Et ces solutions, elles sont de plus en plus déployées sur des sites sensibles, principalement, et sur beaucoup de cas d'usage différents, dont la sécurité.
On reste ensemble, on continue à parler des technologies au service de la sécurité.
Il est 13h10.
Europe 1, Elisabeth Assayer.
Réserver un agent de sécurité en une minute sur Internet, c'est possible grâce à une plateforme en ligne, c'est monagentdesécu.com. Et c'est ça, la France qui bouge.
Et avec vous, Elisabeth Assayer, dans La France bouge, aujourd'hui on s'intéresse à un secteur en pleine croissance, les nouvelles technologies au service de la sécurité. On parlait des drones il y a quelques instants. Si vous souhaitez intervenir en direct sur Europe 1, 39 21, vous nous laissez un petit message et bien sûr on vous rappelle. Et puis vous pouvez aussi publier un petit commentaire, interagir, poser des questions à nos invités sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Ils sont 160 000 en France et on estime à 10 000 le nombre de sociétés de sécurité. Il y a 3 ans, 2 associés se sont dit « tout le monde a le droit à la sécurité », que ce soit professionnellement ou personnellement, de manière ponctuelle, lors d'une soirée, par exemple d'anniversaire ou d'un mariage. Et c'est comme cela qu'est né monagentdesécu.com. Bonjour Marc Kressler.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1.
Merci.
Dites-moi. Oui.
Merci de m'avoir invité.
Vous êtes le fondateur et le président de monagentdesécu.com. Grâce à vous, on peut réserver un agent de sécurité n'importe quand.
Bah écoutez, oui, en effet, aujourd'hui, on a mis sur le marché, il y a quelques mois, la plateforme qui s'appelle Mon Agent de Sécu. Et grâce à cette plateforme, tout le monde peut réserver un agent de sécurité, que ce sera pour les besoins personnels ou pour les besoins professionnels. C'est vrai qu'on est parti d'une conviction et de quelques constats. La conviction est que tout le monde a le droit à la sécurité. Ça, c'est la conviction. Et les constats, il y en a eu au moins deux, voire trois. La première, qui n'a pas songé à un moment ou à un autre réserver un agent de sécurité, soit pour soirée anniversaire, soit pour assurer une fête d'association, ou tout simplement avoir un agent qui regardera que tout se passe bien dans la maison si on est en vacances.
Un peu de vigilance. Alors, comment a démarré l'aventure? Je crois que vous êtes un expert dans ce domaine de la sécurité, puisque vous êtes né en ex-URSS.
Ex-URSS, oui.
Et vous avez vécu en Israël,
tout
où là-bas, la sécurité, c'est un sujet quotidien.
Tout
et maintenant, la France.
Et maintenant, la France. Oui, en effet, ça fait une vingtaine d'années que j'habite en France. C'est vrai que la sécurité a traversé toute ma vie, donc j'étais toujours plus ou moins dans le domaine de sécurité. Et effectivement, que ce soit dans le cadre professionnel, à travers le conseil en sécurité, mais aussi dans le cadre associatif sportif, je suis prof de Krav Maga, donc très souvent, des gens venaient me voir en disant « Tu ne connais pas quelqu'un qui pourra assurer l'anniversaire ou assurer une fête d'association ?»
Un gros anniversaire quand même.
Écoutez, aujourd'hui en France, il y a 200 000 anniversaires par jour. Donc, on ne va pas les sécuriser tous, mais sur 200 000, il y a quand même un certain nombre d'anniversaires qui doivent être sécurisés. Et d'autre côté, les agents de sécurité que je connais venaient me voir en disant « Tu ne connais pas quelqu'un qui voudra assurer fête d'association ?» On parle des particuliers, mais la même chose est vraie aussi pour les petites mairies. Dans le cadre professionnel, j'ai vu pas mal de petites mairies et qu'elles ont besoin de faire une fête d'association, pour ne pas le nommer, ils utilisent la police municipale. Donc là, ils pourraient utiliser tout simplement un agent de sécurité. Maintenant, pour un non-initié, entre guillemets, le domaine de sécurité privée, c'est quelque chose de relativement opaque. Si vous voulez réserver un agent de sécurité, vous allez passer un peu de temps, trouver la société, vous ne savez pas si l'enfant...
C'est pas très bien à qui s'adresser.
Voilà, tout à fait. Et donc, fort de ce constat-là, on a décidé de créer une marketplace sur Internet.
Une sorte de plateforme.
Une plateforme, effectivement, c'est tout à fait ça. C'est une plateforme où, d'un côté, les agents de sécurité, plutôt les professionnels de sécurité, les sociétés de sécurité, peuvent s'inscrire gratuitement sur cette plateforme. Et ce qui est plus important, ils peuvent définir le prix qu'ils souhaitent avoir pour la prestation, le prix horaire. Très souvent, aujourd'hui...
Donc, c'est moins opaque.
Bah déjà, c'est moins opaque
d'une
part, mais
d'autre
part, ça valorise aussi les agents de sécurité. On ne voulait pas aller dans le domaine d'ubérisation où les prix sont imposés, etc. On voulait plutôt mettre en valeur les agents de sécurité, les sociétés de sécurité. Donc d'un côté, les sociétés de sécurité peuvent s'inscrire, mettre à disposition leur agent avec un prix qui leur convient. Et d'autre part, les gens qui ont besoin de sécurité ponctuelle, parce qu'on ne travaille que sur la sécurité ponctuelle, peuvent réserver l'agent de sécurité que leur convient.
Alors justement, vous dites que c'est pour valoriser l'agent de sécurité. Sébastien, ils sont très nombreux déjà en France.
Oui, alors vous disiez à peu près 170 000, il y en a de plus en plus, une hausse de 40% en 10 ans. Mais vous parliez d'ubérisation, c'est ce qu'a dénoncé d'ailleurs un rapport en fin d'année dernière de deux parlementaires. Il faut savoir que 44% des agents de sécurité aujourd'hui en France gagnent moins de 1310 euros net par mois. Et est-ce qu'il ne manque pas de formation aujourd'hui? Parce que je crois que la seule obligation, c'est ce qu'on appelle un CQP, un certificat de qualification professionnelle. Est-ce qu'il ne faut pas plus de formation?
Mais écoutez, déjà, si vous voulez, en effet, aujourd'hui, il y a en France à peu près 10 000 agents de sécurité, sociétés de sécurité, agences de sécurité, dont à peu près 85 000 sont des agences ou sociétés de 0 à 20 employés.
Souvent, ils sont seuls. Hein.
Souvent, ils sont seuls. Mmh. Et ces gens-là, ils ont systématiquement la recherche des revenus, des missions, etc. Et pour eux, c'est un vrai investissement. Concernant la formation, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'agent de sécurité est vu souvent comme un vigile à l'entrée d'un supermarché. Mais c'est ça, mais c'est pas.
Mais ce n'est plus
que
le
ça.
Cas, finalement.
Ils doivent
suivre une formation beaucoup plus importante.
Il y a plusieurs formations. Il y a des formations de cinéphiles, des gardes-corps, les spécificités dans l'événementiel. Donc c'est vrai que nous, on s'est fixé aussi comme un objectif de valoriser le métier de sécurité qui est aujourd'hui mal connu et pas toujours...
N'a pas toujours une très belle image non
tout
plus.
À fait.
Hein. Nicolas Chaban.
Alors moi, je suis allé sur le site, mon agent de sécu.com, c'est ça ?
Oui, mon agent de sécu.com.
Voilà. Et c'est vrai que j'ai vu... Alors, c'est un métier extraordinaire parce que on n'a pas besoin d'avoir le visage plus angélique pour attirer l'attention et donner envie de... voilà. Alors, je ne dis pas qu'on va vers les mines les plus patibulaires, mais on a besoin d'être rassuré, donc il y a des photos. Et puis, ce qui est bien fait aussi, j'en conviens, c'est que vous signalez les spécialités ou les spécialisations... Un maître chien, évidemment, enfin, il y a différents niveaux.
Tout à fait.
Mais il y a différents prix. Donc moi, je me suis retrouvé, j'avais rentré 3 heures, alors, en face
pourquoi
de...
Quel type d'événement ?
Voilà, pourquoi quelqu'un a moins de 200 euros et pourquoi quelqu'un a quasiment 400 euros ? Ça dépend de la compétence, c'est ça ?
Bah écoutez, il y a une double réponse. La réponse première est que chaque société... mais le prix de l'agent qu'il estime. Donc ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, vous avez parlé de la formation. En effet, il y a plusieurs formations. Il y a un agent qui a de CQP, donc une formation, je ne dirais pas de base, mais une formation minimale pour pouvoir exercer. Après, il y a les formations supplémentaires. Par exemple, quelqu'un qui est le bodyguard, l'agent de protection rapproché, il a une formation supplémentaire. Et les sociétés de sécurité essaient de valoriser ces compétences-là.
Mais vous pouvez garantir le sérieux de la personne qu'on va avoir pendant une mission ?
Bah, écoutez, en fait, c'était un des objectifs, c'est effectivement garantir la prestation de qualité. Et ça nous arrive de ne pas mettre les gens sur la plateforme, parce que nous, on commence par s'assurer qu'à minima, il y a toutes les conditions, tous les documents, toutes les formations nécessaires, l'autorisation d'exercer, et donc il y a un certain nombre de documents nécessaires. C'est la première étape. Après, on discute aussi avec le directeur de la société qui met à disposition ses agents. Et puis après, il y a aussi le marché, c'est-à-dire une fois la mission faite,
voilà,
le retour du client qui
leur
note, tout à fait.
On vous demande quoi, surtout ? C'est pour quel type de prestations ?
Bah, écoutez, vous savez, comme les nouveaux services, ils créent les nouveaux usages. On nous demande les anniversaires, on nous demande les soirées d'étudiants, on nous a aussi demandé d'assurer une vente éphémère, comme on nous a demandé d'accompagner quelqu'un dans le cadre d'un divorce, parce que le mari était un peu violent, donc la femme avait peur de se retrouver toute seule.
Oui, donc il y a toutes sortes de demandes.
Tout à fait.
Ou un grand mythomane qui voudrait passer une soirée entourée de gorilles en n'ayant aucune raison de faire.
Tout à fait.
On reste ensemble sur Europe 1, on continue à parler sécurité.
Il est 13h20.
Europe 1, Elisabeth Assayag.
Décrypter les visages grâce à l'intelligence artificielle pour mieux cerner les foules. Ça existe, c'est la mission de Too High. Restez avec nous.
Jusqu'à 14h, vous écoutez La France bouge avec Elisabeth Assayag sur Europe 1. On continue à parler des technologies, des nouvelles applications 2.0 au service de la sécurité. On a vu que le métier d'agent de sécurité évoluait. Faut-il valoriser le métier ? Faut-il davantage de formation ? Vous pouvez réagir au 3921, c'est le standard d'Europe 1. 50 centimes la minute, vous laissez un petit message, on vous rappelle bien sûr. Et puis il y a Twitter avec le hashtag Europe 1, n'hésitez pas à poser toutes vos questions.
Analyser les images vidéo pour extraire des informations comme la présence d'un homme, la présence d'une voiture ou celle d'un animal. Reconnaître les émotions humaines, c'est ce que développe Too High. Bonjour Julien Trombini.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur de Too High. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Votre start-up est née à Metz il y a 2 petites années, c'est ça ?
Un petit peu moins, ça fera 2 ans en juillet.
Voilà, donc un an et demi. Vous avez trouvé une solution pour lire des émotions dans les stades, dans les rues et bientôt dans les villes, dans toutes les villes. Comment ça a commencé ?
L'idée vient du constat que les personnes qui sont amenées à manager les villes ont besoin d'un outil de gouvernance beaucoup plus global et beaucoup plus instantané, puisque la majorité des gens ne s'expriment pas sur un sujet lorsqu'on leur pose une question. Et l'idée venait du fait...
La façon dont les maires...
Oui, au maire, mais tout un tas de décideurs. Et le constat était, ce serait vraiment génial de pouvoir mesurer la perception des citoyens pour faire en sorte que leur bien-être soit compris et aussi soit réparti de façon beaucoup plus homogène sur le territoire. Ça,
donc,
c'est l'idée de base.
Donc, ouais.
Être capable d'identifier ses émotions, de savoir où les gens vivent le mieux, comprendre les raisons pour lesquelles ils vivent bien dans ces quartiers, transférer certains leviers dans des quartiers moins favorisés, et voir si l'implémentation de ces nouvelles mesures a effectivement un impact positif sur le bien-être des gens. Le bien-être, ce n'est pas juste l'émotion être heureux, ce n'est pas un sourire. Mais voilà l'idée de base. Et après... pour faire ça, on s'est transformé en société qui travaille sur l'intelligence artificielle et la vision par ordinateur, en utilisant donc les images. Et puis, on a diverti avec différents axes de commercialisation.
Vous êtes sorti des villes pour aller dans des stades, dans des concerts. Voilà. Donc, votre envie initiale, c'était de donner des outils aux villes. Justement, cet outil, il marche comment? C'est quoi?
Alors,
on a du mal à imaginer.
Ce sont principalement des algorithmes.
Oui.
Oui, c'est un logiciel. Ce sont principalement des algorithmes qui ont appris et qui continuent à apprendre à faire de la reconnaissance. Alors, l'algorithme le plus connu entre tous, c'est la reconnaissance faciale, comparaison faciale. Celui qui a bien des avantages et aussi qui est largement décrié en fonction de ses cadres d'application et ce que l'on comprend. Donc nous, c'est une brique technologique que l'on possède, mais c'est loin d'être la brique technologique que l'on pousse et sur laquelle on cherche à construire notre société. Mais on peut aussi aller dans des analyses qui sont plus fines, des analyses identifier le genre d'une personne, son âge approximatif, descendre un petit peu plus dans l'analyse avec son émotion et les micro-émotions.
Et ça, vous le voyez grâce à des caméras?
Et ça, on le voit grâce
vous
à des caméras.
Vous utilisez les caméras déjà présentes dans les villes ou vous-même vous en installez?
Alors, ça peut être le cas. On peut utiliser l'infrastructure déjà présente. C'est la force de notre logiciel, être capable d'être transparent pour nos clients. Cependant, dans certains cas, certains de nos clients ont besoin d'une infrastructure qui est plus récente, plus adaptée à ces technologies. Et donc, on peut aller sur des analyses qui sont beaucoup plus fines.
Mais par exemple?
Par exemple, le rythme cardiaque.
C'est-à-dire, vous pouvez, grâce aux caméras, analyser le rythme cardiaque d'un manifestant, par exemple?
Alors, d'un manifestant, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup...
Je pense à une foule, hein, c'est pour ça que...
Alors, voilà, mais il faut savoir... Les algorithmes sont extrêmement... j'ai le mot en anglais qui me vient tailor-made, mais fait sur mesure par rapport à un cas de figure. Et être capable dans un studio ici où la lumière est maîtrisée, où l'environnement, où l'on ne bouge pas trop, c'est beaucoup plus simple d'analyser le rythme cardiaque via une caméra. Les distances sont réduites. Lorsqu'on fait face à une foule où une partie du visage peut être masquée, elle est en mouvement, la luminosité n'est pas du tout maîtrisée. C'est des algorithmes qui doivent être beaucoup plus performants.
Donc par exemple, vous êtes capable d'évaluer une situation où il y a quelque chose qui est en train de se tendre?
Alors l'objectif,
une tension qui est en train d'émerger?
C'est exactement ça. C'est de pouvoir identifier grâce à différents critères. Et ça, c'est aux agents de sécurité de les définir. Puisque nous, notre outil, c'est un outil qui vient en support du travail que font les agents de sécurité et, si possible, d'être proactif par rapport à certaines situations, d'allouer dynamiquement des agents sur le terrain pour être présent au cas où il y aurait un risque.
Vous parliez tout à l'heure d'un âge approximatif. Ça pose quand même la question de la fiabilité de ce que vous proposez. Comment on peut être sûr et certain de tel âge, de tel profil?
Déjà, si je vous demandais d'estimer mon âge, à moins que vous ayez lu ma fiche, ça va être très dur pour un humain. Déjà, pour un humain, c'est extrêmement dur.
72, 30.
À peu près. Ouais. J'ai fêté mes 71 ans l'an dernier.
Vous faites jeune, hein. 30 ans. Allez.
Voilà, 34. Voilà. Vous voyez, vous avez déjà une marge d'erreur qui est conséquente, ouais. À peu près 12%.
Et
c'est
vous,
non
grâce
négligeable.
À votre logiciel?
Nous, grâce à notre logiciel, on va être à 80% sur une marge d'erreur de 5 ans. Sur le genre, par exemple, pour déterminer que c'est un homme, on va être à une précision à 98%. Pour déterminer que c'est une femme, c'est légèrement plus faible. On va être à 96%. Sachant que on fait face à tous les cas de figure qui sont présents, c'est pas forcément du face à face.
Et c'est plus compliqué pour les personnes de couleur que pour les personnes blanches. J'avais lu ça dans une étude américaine
où
la fiabilité était à 99% sur les personnes à peau blanche et 75% pour les personnes de couleur, parce que les algorithmes en fait avaient été entraînés à partir d'échantillons qui n'étaient pas suffisamment diversifiés, quoi.
Voilà, c'est exactement ça. C'est pas que c'est plus compliqué. Par exemple, la reconnaissance faciale est un logiciel, enfin est une fonction qui marche très bien sur les personnes de type asiatique. Et la raison, c'est parce que les bases de données, étant donné que c'est une technologie qui est très poussée en Asie, elles sont majoritairement fournies avec des personnes de type asiatique.
Mmh. Nicolas Chaban.
Vous avez réuni donc la bonne gestion d'une manifestation, hein, donc les drones, les agents de sécurité impliqués sur... Voilà, comme d'habitude, vous avez fait un résumé du monde moderne. Non, moi j'ai une question simple. Une fois que cette info est captée, c'est fait en direct, on est d'accord. Combien de temps il faut, à partir de cette captation d'info, pour que les gens puissent l'avoir, cette information, l'interpréter et agir?
Qu'est-ce qu'on en fait, c'est ça?
Alors, c'est exactement tout le problème. Il ne faut pas être submergé par l'information. Donc, notre logiciel peut être customisé, fait sur mesure pour le client, où il rentre par avance des alertes qu'il connaît, des alertes qu'il envisage. À partir du moment où l'alerte est déclenchée, c'est instantané. On va dire, on parle d'une latence qui va être entre 1 et 3 secondes en fonction du réseau, en fonction de la configuration du site client. Et pour intervenir, bah là, c'est la distance de déplacement du client. Est-ce qu'il a un drone? Est-ce qu'il a un agent à pied? Ça, c'est des questions qui sont à étudier en fonction de l'offre qu'on
vous
veut.
Vous avez fait faire un test sur les dernières manifestations pour voir véritablement si vous pouviez détecter...
Non.
On reste ensemble, on continue à parler des nouvelles technologies au service de la sécurité.
Il est 13h29.
Europe 1, Elisabeth Assayag.
39-21, venez, on vous attend. Vos témoignages, vos questions, nos invités sont là en studio pour vous répondre et pour échanger avec vous. À tout de suite.
Et on retrouve Elisabeth Assayag et ses invités pour la suite de La France Bouge sur Europe 1. On s'intéresse aujourd'hui aux nouvelles technologies au service de la sécurité.
Oui, et toujours avec le coach du jour, Nicolas Chaban, le fondateur de C'est qui le patron, Sébastien Guyot de la rédaction d'Europe 1. Et avec nous pour en parler, Marc Fessler, le fondateur et le président de monagentdesécu.com. On peut réserver un agent de sécurité sur Internet avec Julien Trombini, le cofondateur de TwoEye, une start-up qui décrypte les visages pour mieux cerner les foules, et ainsi qu'avec Clément Christomanos, le président et le cofondateur de Uavia, spécialisé dans les drones autonomes. Justement, Clément Christomanos, nous avons un auditeur en ligne qui s'appelle Edouard. Bonjour Edouard.
Oui, bonjour.
Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Alors vous, je crois que vous aviez justement une question pour Clément Christomanos, ou une remarque. Vous, je crois que vous dirigez des sociétés dans le domaine des drones depuis une quinzaine d'années.
C'est ça, ça fait 15 ans, Civic Drone d'une part et OneDrone d'autre part. Bon, on est membre du CDC, le Conseil des drones civils. Je suis l'ancien président, vice-président du cluster drone Paris Région.
Vous vous y connaissez un peu, donc.
Dont on fait partie.
Oui, puis on a été les premiers à livrer une centrale nucléaire également. En 2016, avec un drone parfaitement autonome pour livrer des sondes de mesure radioactive et enregistrer des échantillons atmosphériques.
Et donc,
alors, la question, c'est, on connaît effectivement assez bien les drones et les drones de sécurité autonomes, et la question c'est, d'ordinaire, il faut, pour voler sur Paris, ou pour voler de manière autonome, ou pour voler la nuit, des dérogations assez particulières. Alors la question que j'ai à poser, c'est, avez-vous obtenu des dérogations longue durée facilement? Parce que normalement, on ne peut pas considérer pour une société privée de sécurité qu'elle pourra acheter un drone et le faire voler facilement où elle veut, quand elle veut, la nuit ou de manière autonome. C'est interdit par la DGAC.
Alors Clément Christomanos, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Edouard? Est-ce que vous avez obtenu des dérogations justement pour faire voler vos drones autonomes?
Absolument. Edouard connaît très bien le domaine. Et effectivement, on a été pionniers dans le sujet en fait, des dérogations et de la réglementation sur le sujet des drones. Faut savoir que... la France a été pionnière sur le sujet de la réglementation dans les drones. On en parlait tout à l'heure, les drones sont réglementés depuis 2012 maintenant, et on a fait le pari finalement de rendre les drones autonomes et de faire bouger les lignes de la réglementation, ce qui était pas simple. Et en fait, aujourd'hui, ça fonctionne, puisqu'on a obtenu effectivement des dérogations de longue durée grâce au travail de la DGAC, hein, la Direction Générale de l'Aviation Civile, qui gère les autorisations de vol des drones, qui fait un travail vraiment formidable pour aider la filière à se développer. Et y a une
oui, parce
vraie
qu'il y a de plus en
informée.
Plus de demandes, donc il faut aider la filière à se développer, à obtenir ces dérogations pour que des entreprises comme les vôtres puissent se développer.
Tout à fait. Et en France, en plus, on a une véritable carte à jouer sur le sujet, puisque finalement, on a parmi les meilleurs experts au monde dans la robotique, dans l'intelligence artificielle, dans les télécommunications, et de vrais enjeux à venir aussi sur la sécurité, par exemple avec les Jeux Olympiques qui sont à venir prochainement. Donc effectivement, on a été parmi les premiers à obtenir des dérogations sur le sujet, et les activités que nous portons sont en passe de devenir... plus général, puisque le cadre d'emploi européen qui est en train d'être porté sur le sujet des drones
va pouvoir le permettre.
Va le permettre, tout à fait.
Merci Edouard de nous avoir appelé en direct sur Europe 1. Alors on le voit, depuis les attentats de Paris en 2015, la sécurité est au cœur des entreprises. Avec cette nouvelle technologie comme la reconnaissance faciale, comme les drones, impossible de ne pas penser aux questions éthiques. Comment vous gérez ça?
Ça vous pose un problème, la question. Parce que la reconnaissance faciale, on l'a vu par exemple en Chine, elle est utilisée contre la communauté Ouïghour, par exemple, pour chercher des criminels, mais parfois avec des abus. Quelles sont les limites que vous essayez de ne pas franchir?
Je ne peux parler que pour notre société. Nous avons construit un logiciel qui est 100% anonymisé, c'est-à-dire qu'il ne garde pas d'image, qui ne garde pas de vidéo et qui ne fournit que de la métadonnée agrégée. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on peut retracer l'identité d'une personne.
Donc c'est instantané.
Voilà. Sauf dans certains cas très particuliers qui sont supportés par la loi et dans les cas où on peut utiliser la reconnaissance faciale. Après, la parenthèse que j'aimerais faire, c'est qu'aussi toute technologie a son pour et son contre. Et je suis intimement persuadé que les technologies liées à l'intelligence artificielle, même si on est très loin aujourd'hui d'avoir des technologies d'intelligence artificielle au sens où on le conçoit, c'est-à-dire qu'ils sont très, les algorithmes sont très très loin d'être intelligents, ce sont des outils très performants pour faire une tâche précise, mais ils sont loin, loin d'être intelligents. Je suis persuadé que ça a de grandes valeurs ajoutées pour nous, pour la société à venir. Cependant, il faut que ce soit contraint dans un cadre légal qui assure à tout le monde de pouvoir conserver sa vie privée.
Justement, Sébastien, que dit la loi en France sur tout ça, sur la, par exemple sur la reconnaissance faciale?
Alors, il y a la CNIL, hein, vous connaissez, la Commission nationale informatique et liberté. Elle dit qu'en gros, tout responsable d'un projet de reconnaissance faciale est tenu de mener une analyse d'impact qui doit être conforme au RGPD, vous savez, le fameux règlement général sur la protection des données. En clair, il faut demander l'avis aux personnes concernées et filmées. Sinon, vous encourez jusqu'à 10 millions d'euros d'amende et pour un particulier et 2% du chiffre d'affaires pour une entreprise.
Justement, dans cette émergence de cette société de surveillance un peu généralisée, Marc Fessler, on a une auditrice qui nous a envoyé ce message qui s'appelle Edith. Elle dit « Les drones permettent un flicage inimaginable. C'est pour saisir les émotions des gens en manifestation. C'est énorme comme truc. On perd la liberté de l'individu. » Le mot a été prononcé, liberté. Marc Fessler, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Edith là-dessus, sur ce flicage interminable?
Mais écoutez, après, il faut savoir où on souhaite mettre le curseur. Donc, bien évidemment, il y a la loi, il y a l'éthique, il y a la liberté de vie privée. Donc, en effet, il faut, je pense qu'il s'agit d'un côté bien réglementer tout ce qui se passe, tout ce qui peut être fait. D'autre part, il faut que cette réglementation aussi permette aux personnes qui ont besoin de sécurité d'être sécurisées. Donc, je pense qu'il y a les instances en France qui travaillent sur le sujet, qui travaillent sur le sujet en permanence. Ça va de la liberté personnelle, ça passe par la reconnaissance vocale, par les drones, par les agents de sécurité, par beaucoup de choses. Mais je pense que la réponse est de trouver l'équilibre entre les deux.
Trouver l'équilibre entre les deux. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous trois d'être venus sur Europe 1 nous parler chacun de vos technologies, de vos savoirs et autour de cette question de la sécurité. Merci à vous.
Il est 13h37.
Europe 1, Elisabeth Assayag.
Elle a commencé à fabriquer des moulins à café, puis des moulins à poivre. Ça fait 200 ans. Elle s'appelle Peugeot Saveur et c'est l'entreprise qui va bien, merci.
La France bouge, se poursuit avec vous, Elisabeth Assayag, et avec une entreprise qui va bien.
Oui, parce que l'on sait tous que Peugeot, ce sont des voitures, mais on sait moins que le groupe est aussi le leader mondial du poivrier. Peugeot Saveur, c'est l'entreprise qui va bien. Bonjour Éric Denis.
Bonjour Elisabeth Assayag.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes le PDG de Peugeot Saveur. Peugeot Saveur, ce sont 130 personnes à Quingé, dans le Doubs. C'est là-bas qu'est née l'entreprise.
Absolument. La marque Peugeot Saveur repose sur trois piliers pérennes que sont l'histoire, bien évidemment, les produits et puis les hommes qui sont au cœur de l'aventure industrielle. Peugeot Saveur, c'est une manufacture française bicentenaire. On est très attaché à ce côté Made in France. Mais c'est aussi une PME avec une dimension humaine et un fonctionnement en start-up. Nous sommes basés à Quingé, effectivement, dans le Doubs, qui est le berceau de l'entreprise depuis ses origines. Et puis, nous concevons, fabriquons, développons tous les produits qui sont autour de l'univers des saveurs, notamment le poivre, autour du poivre, du café,
du vin,
de la céramique et puis des couteaux.
Alors, c'est une entreprise qui a été fondée par deux frères Peugeot, hein, Jean-Pierre et Jean-Frédéric Peugeot. Ça a commencé au début du 19e siècle. Ils ont inventé en 1840, dans leur fonderie, le premier moulin à café. Ça a commencé par le premier moulin à café, c'est ça ?
L'histoire est même plus étonnante que ça, parce que ce sont de véritables visionnaires. Ils possèdent un moulin, ils le transforment en fonderie d'acier et ils font de l'outillage à main. En 1812, ils sortent leur première scie et puis aussi du ruban d'acier. Et ce qui est assez étonnant, c'est que ce ruban d'acier va servir à créer l'ossature des robes à crinoline. Et puis en 1840, le premier moulin à café, le moulin cubique que l'on connaît de nos grands-mères, qu'on coince entre les jambes pour faire le café. En 1850, le logo avec le lion. Et puis en 1874, le premier moulin à poivre de table qu'on peut en admirer.
Je vais vous les expliquer sur europe1.fr pour nos auditeurs. On en a trois. Les trois sont assez différents. pouvez nous les décrire ?
Alors absolument. Ce qui conduit Peugeot, c'est à la fois la tradition et l'innovation. Le premier grand moulin que vous avez est un moulin en bois de hêtre. Et c'est le moulin que l'on connaît, qui est ancré dans l'imaginaire collectif.
Il mesure combien ?
40 centimètres.
Combien ?
40 centimètres. Et ce moulin, on lui a apporté deux innovations. La première, c'est de glisser à l'intérieur un moteur électrique. Rechargeable, parce que ça permet aussi d'un point de vue écologique de laisser de côté les piles. Et puis un système de réglage de la mouture à sa base qui est très très précis.
On peut apercevoir la tête du lion, c'est la griffe de la marque. Hein.
Absolument.
Il a une signification ce lion ?
Oui, en fait ce lion qui est né en 1950 venait renforcer l'image de la scie, c'est-à-dire la souplesse, la robustesse et la vitesse de coupe, puisqu'à l'époque c'était de l'outillage à main.
Alors, ils étaient d'abord fabriqués, je crois, en porcelaine, puis en métal argenté, puis
oui,
en bois.
Absolument.
Donc, vous avez tenté tous les matériaux.
Eh bien, écoutez, vous voyez, le deuxième moulin est encore un autre matériau. Voilà. C'est de l'acryle et on s'attend généralement à ce que ce genre de produit soit fabriqué dans des pays exotiques. Et bien là encore, c'est du Made in France, puisque nous avons un partenaire, Veroyona, dans l'Ain, qui fabrique le corps pour nous.
Il en sort plus de 3 millions d'exemplaires chaque année.
Absolument. C'est 1700 mètres cubes de bois. Pour vous donner une idée, un Spearmorgue, c'est 30 mètres cubes. Donc ça, ça vous donne une idée. Et pour caractériser tout ça, on dit que la production annuelle, si on la mettait bout à bout, ça fait 300 km, donc une distance Paris-Dijon.
Vous êtes vendu partout dans le monde ?
Absolument. 70% de notre chiffre est à l'export, dans 90 pays.
Et je crois que c'est en durée de vie illimitée en plus.
Alors le mécanisme est une garantie de vie illimitée, effectivement. Ça fait l'objet d'un brevet. Et puis ça permet aussi, dans la stratégie de Peugeot, de se dire que dans un système industriel d'aujourd'hui, avec l'obsolescence programmée, garantir un mécanisme sans limitation de durée, ça permet de s'illustrer dans la durée.
Vous avez une belle histoire d'ailleurs là-dessus. Hein. On a partagé ça tout à l'heure.
Absolument.
Mais
Nicolas
d'abord,
Chaban.
Vous dire que mettez du poivre sur les viandes de votre alimentation. On ne le fait pas assez. Un peu à l'instar de ces grands cuisiniers japonais qui, à la façon de couper le poisson, lui donne un goût différent. On sait que quand il y a un poivrier digne de ce nom, c'est encore meilleur. Et vous racontiez l'histoire de ce poivrier, je vous laisse la raconter.
Alors absolument, on a une cellule SAV dans l'entreprise où l'on reçoit régulièrement des moulins plus ou moins âgés. Et il y a 15 jours de ça, nous avons reçu un moulin de 1907, un moulin argenté, ce qui a amené certaines précautions, vous l'imaginez, parce que le mécanisme à l'intérieur avait de l'âge, donc il fallait le remplacer. Et les opératrices qui intervenaient sur ce moulin prenaient beaucoup, beaucoup de précautions, parce que généralement, ils ont une histoire.
Donc il a servi plus de 100 ans
avant. Il a servi plus de 100 ans, oui.
Une durée de vie illimitée.
Exactement.
Justement, vous êtes en train de parler de poivre. Quel est le plus gros consommateur de poivre ? Qui vous achète le plus de poivriers ?
Eh bien, écoutez, c'est équitablement réparti entre les chefs, les restaurants et monsieur et madame tout le monde qui aujourd'hui redécouvrent le poivre. C'est à l'instar du thé, c'est-à-dire c'est une façon de consommer différente, avec
saveurs
différentes.
Saveurs.
Exactement.
Alors en 2014, Peugeot Saveur est repris par la famille qui devient actionnaire majoritaire.
Absolument.
Parce que vous avez connu quelques remous.
Oui.
Et dès 2015, vous vous dites, on va faire autre chose que des moulins à poivre, on va lancer plein de nouveaux produits.
Exactement, en fait on s'est intéressé à tous les épices. Et en fait, vous avez le troisième moulin qui en est l'illustration. Peugeot était exactement. C'est un moulin en fait à graines de lin parce que Peugeot a toujours été attentif au mode de consommation et puis à la connaissance des ingrédients. La graine de lin, c'est un élément extrêmement bénéfique pour le corps parce que des vitamines, des sels minéraux et aussi des fibres. Mais il prend sa saveur à partir du moment où il est concassé. Donc ça a fait l'objet d'un brevet particulier et c'est idéal pour agrémenter les salades durant l'été.
Et bien justement, on va aller manger une salade après.
On en rêve.
C'est l'heure.
Merci Eric Denis d'être venu nous présenter Peugeot Saveur, d'avoir si bien su nous en parler. Et c'est l'entreprise qui va bien, merci.
Je vous remercie également.
Il est 13h48.
Europe 1, Elisabeth Assayag.
Quelles sont vos cachettes pour ranger vos clés, pour arrêter de mettre les clés sous le paillasson ? Une start-up a inventé la consigne connectée, pilotée à distance. C'est la solution d'aujourd'hui, choisie par Sébastien Guyot, dans La France qui bouge. Restez avec nous.
La France bouge, dernière partie de l'émission avec vous, Elisabeth Assayag. Et d'ailleurs, vous nous proposez la solution du jour, grâce à celle d'aujourd'hui. Fini les galères pour récupérer des clés.
Oui, c'est un casse-tête auquel vous avez sûrement été confronté quand vous vouliez accueillir des proches chez vous, louer votre appartement. Pas évident de trouver un endroit sûr, le paillasson, le pot de fleurs, oui, mais bon, ce n'est pas l'idéal. Heureusement, Sébastien, voici venu Monkey Loki.
Oui, des consignes connectées, sécurisées pour les clés, accessibles 24 heures sur 24. Il y en a à peu près 1500 casiers disponibles aujourd'hui à Paris. On en trouve également une centaine à Lyon. L'objectif, c'est de se développer un peu partout en France et dans le monde. Et pour en parler, nous recevons le cofondateur de cette start-up, Monkey Loki. Bonjour, Cédric Schwarzenberg.
Bonjour, merci de me recevoir.
Vous avez 34 ans, c'est ça ?
C'est ça.
Votre entreprise emploie une dizaine de personnes. Vous êtes à Montreuil. Vous avez lancé Monkey Loki en 2016. Au départ, en fait, vous êtes un adepte d'Airbnb et vous en aviez marre des galères de clés.
Tout à fait, c'est ça. Et en fait, un jour, je me suis retrouvé coincé devant la porte avec les clés en main et mon locataire Airbnb qui me disait être lui bloqué à l'aéroport. J'avais un train à prendre et finalement, j'ai raté mon départ en week-end. Je me suis dit, ben, il est temps, à l'heure où tout est connecté, de trouver une solution connectée où je peux laisser mes clés quelque part en sécurité et gérer ça à distance, l'accès à mon logement à distance.
Alors, vous allez nous expliquer comment ça marche. Il n'y a pas d'appli, c'est un site internet en fait. Vous nous dites en trois clics, c'est fait.
Pas d'appli, hein.
C'est ça.
Pas d'appli, c'est un site internet.
Alors, il n'y a pas d'appli, en réalité, le site internet est responsive. On n'a pas besoin aujourd'hui d'applications mobiles forcément, puisque ça s'adapte à votre téléphone mobile. Par contre, le pari était effectivement de pouvoir consommer le service ou utiliser le service en trois clics, de façon nomade et très rapidement.
Premier clic.
Donc aujourd'hui, on est devant la machine, on choisit finalement sur son application mobile le lieu de stockage, on choisit la durée de stockage, puis on fait sa réservation et on reçoit un code secret.
Donc ça peut être un jour, cinq jours, un mois, et le prix varie en fonction.
Varie en fonction de la durée de stockage, à l'image des consignes à bagages en gare.
Où on le trouve ce stockage ?
Alors, on a signé un partenariat avec le groupe Carrefour aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a déjà 1500 casiers dans tout Paris, puisqu'on équipe les magasins Carrefour City, mais pas que. Puisqu'on équipe également les commerçants de proximité, les différents endroits comme ça, comme des bars, restaurants, enfin des endroits qui sont disponibles 7 sur 7 et en libre accès.
Alors, vous avez mis, je crois, un an et demi à développer le projet. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je me sens sécurisé avec votre système pour ne pas perdre ma clé ou la laisser à quelqu'un de confiance ?
C'est une solution 100% connectée. Vous êtes averti à chaque fois que le casier s'ouvre. Vous gérez votre code secret à distance. Vous pouvez changer immédiatement le code secret s'il y a un doute. Et en plus, effectivement, en plus des notifications, dans votre espace client, vous suivez finement qui a récupéré les clés et à quelle heure elles sont récupérées.
Nicolas Chaban.
J'ai un jour un appartement à Charleville-Mézières, la ville d'Arthur Rimbaud. Il y avait un petit bloc qui me permettait d'accéder à ma clé et de la remettre ensuite. C'est ce principe-là. Et pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas rendu aussi individuel ? C'était la volonté de le faire à plus grande échelle ?
C'était la volonté de le faire à plus grande échelle. C'était la volonté également de le faire anonymement, puisqu'aujourd'hui, ces petits boîtiers sont vissés sur votre porte. Donc, ils vous indiquent que les clés appartiennent à cet appartement. Nous, on est des solutions qui sont dans des lieux publics. Donc, du coup, il n'y a aucune traçabilité entre vos clés et votre appartement. Donc même si un jour la clé était récupérée dans le casier, c'est comme trouver une clé dans la rue. On ne peut pas faire le lien avec votre appartement. Elles sont en plus sous vidéosurveillance. Et enfin, il y a toujours un badge d'accès aux immeubles parisiens notamment. Et ce badge d'accès, il faut le fournir également à son invité.
Alors Monkey Loki, contrairement à son nom, c'est du Made in France.
Oui.
Mais ça, c'est un peu, ça sonne anglo-saxon parce que vous avez des ambitions un peu internationales, c'est ça ?
Tout à fait. On a tout de suite anticipé puisqu'effectivement, on vise un développement européen dès l'année prochaine.
C'est déjà le cas ? Vous avez commencé à avoir des appels du pied, là ?
On a des appels du pied, on a des signatures en cours. Effectivement, fort de notre partenariat avec le groupe Carrefour, on est déjà amené un petit peu à étudier la stratégie de déploiement international. On a une volonté, c'est quand même de terminer le déploiement national qu'on a initié en début d'année. Donc, on a lancé la solution à Lyon, désormais, et on va équiper comme ça les 10 grandes villes de France, les 10 plus grandes villes de France, et ensuite compléter le maillage dans les stations balnéaires, notamment.
Nicolas.
Ça va être trop long, mais le rêve de la clé neutre qui se reprogramme, dès qu'on la perd, c'est pas grave, on en prend une neutre et on retrouve les mêmes codes. Ça va exister un jour, ça ? Pour perdre autant de clés qu'on veut sans se poser de questions ?
On ne sait pas vers quoi va le marché, mais avec 1,2 million d'appartements à Paris, s'il faut changer toutes les serrures aujourd'hui et toutes les clés, je pense que ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Et la clé, comme on la connaît, a encore des beaux jours devant elle.
Et pour être très concret, c'est 2,90€ pour un jour, 9,90€ pour 5 jours, 19,90€ pour un mois. Comme ça, on sait de quoi on parle.
C'était très précis. Merci. C'était Monkey Loki. C'était votre solution du jour, Sébastien Guyot. Merci d'avoir été avec nous, Cédric Schwarzenberg.
Merci à vous.
Merci d'avoir été en direct sur Europe 1. Merci à Nicolas Chabanne, notre coach. Je rappelle que vous êtes le président de C'est qui le patron. Sébastien, Marlène, on se retrouve demain. Nous parlerons de la vente en vrac. Là aussi, des acteurs français ont su avoir des idées et créer de l'emploi.